S'il est vrai que de louer le Seigneur, c'est un bon moyen de commencer l'année, nous placer sous le regard de la parole de Dieu, c'est aussi un excellent moyen de bien appréhender cette année qui s'ouvre devant nous. Je vais vous inviter à ouvrir donc la Bible dans le livre des Actes, Actes 26, verset 15. Je répondis, c'est Paul qui parle donc, qui raconte son témoignage. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. On vient de fêter la nouvelle année, il y a 2 jours en arrière. Et même si c'est des temps souvent festifs, joyeux, même peut-être le cadre de cette année est un peu particulier, en tout cas, quand on y réfléchit en soi, il n'y a rien d'extraordinaire, puisque c'est la fin d'un cycle et le commencement d'un cycle. C'est finalement un jour comme les autres, sauf que les chiffres font que ça tombe de manière différente. Mais il n'y a pas de changement spectaculaire. Vous êtes d'accord, quand on se dit la bonne année à minuit, la maison n'est pas transformée, nos apparences ne sont pas transformées. Non, on espère, on se souhaite les vœux et on a raison de le faire, dans le Seigneur surtout. Mais parfois, on peut se dire que les années passent et se ressemblent. Il n'y a pas beaucoup de changements finalement. Ou alors, s'il y a des changements, on peut se dire que c'est des changements négatifs. Il y en a, ils remarquent tous les changements négatifs, la hausse du prix du timbre, l'inflation, le coût de la vie qui augmente, le pouvoir d'achat qui baisse. Et si on aborde l'année comme ça, on ne va pas forcément s'épanouir. Je lisais ce sondage, j'en ai parlé un peu vendredi, qui révèle que les Français sont très pessimistes pour 2022. À la question « Comment pensez-vous que l'année 2022 sera par rapport à l'année 2021 ?» 23% ont dit que ça sera pire. Et 59% ont dit que ça sera pareil que 2021. Ça veut dire en gros 82% qui ne sont pas positifs. Heureusement, il y en a 17 qui ont dit ça sera meilleur. Et moi, je veux me placer dans cette catégorie-là. L'année sera meilleure 2022 que 2021, mais pas parce que j'ai envie que celle soit meilleure, parce que je veux placer ma foi dans celui qui rend les choses meilleures. On dit souvent le meilleur est devant nous, mais ça, c'est vrai qu'avec Dieu, hein. C'est pas vrai autrement, ça marche pas autrement. Mais avec le Seigneur, c'est toujours vrai. Même si les conditions peut-être vont être de plus en plus difficiles, ténébreuses, le meilleur est à venir, il est devant nous parce qu'il est dans le Seigneur. Donc le passage à la nouvelle année n'arrange rien en soi, n'arrange pas forcément les choses. Mais j'aimerais vous parler, et on l'a lu un petit peu dans ce verset, d'un passage qui change tout. Un passage qui transforme notre quotidien, qui transforme ce que nous vivons, la façon dont nous réalisons les choses, dont nous raisonnons, tout cela est transformé par ce passage que l'on franchit. Et c'est ce que Paul il est en train de raconter. Paul dit qu'il a été envoyé, il a eu cette mission, Dieu lui a donné cette mission de prêcher la bonne nouvelle pour faire passer les personnes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Vous êtes d'accord que quand ça, on franchit ce passage-là, les choses, elles changent. Ça n'a rien à voir avec le passé de 2021 à 2022. Là, c'est une transformation. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas un jour dans l'année, mais ça peut être tous les jours. Tous les jours où je franchis le cap à nouveau, vous allez me dire, je l'ai déjà vécu il y a des années en arrière. Mais tant mieux, merci Seigneur. Il faut le vivre, mais il faut le revivre et le revivre encore. Parce que constamment, le monde essaie d'exercer une pression sur nous et le Seigneur, lui, veut nous renouveler, veut nous faire passer encore aujourd'hui. On en a parlé la semaine dernière des ténèbres à la lumière, mais il veut nous faire passer de la puissance de Satan à Dieu. Il veut nous faire passer de la mort à la vie. Il veut nous faire passer de la peur au repos. Ça, c'est le passage qui change tout que le Seigneur nous propose. Pour l'année 2022, je ne veux pas faire de souhait particulier, si ce n'est de vous rappeler les promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive, c'est comment ? Par la foi en moi, le pardon des péchés. Le passage, ce n'est pas une porte que l'on franchit matérielle, mais c'est spirituellement où on place notre foi dans la personne de Jésus-Christ qui, lui, est la porte. « Je suis la porte des brebis », va-t-il dire. « Je suis la porte qui mène vers le ciel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. » Voilà pourquoi c'est en lui que nous voulons placer notre foi. Le passage qui change tout, c'est un passage de la puissance de Satan à Dieu. C'est fort cette expression. Je ne sais pas si, quand vous l'avez lu, ça vous a interpellé. Mais moi, ça m'a interpellé. Passer de la puissance de Satan à Dieu. Ça veut dire, si on le prend tel quel, que tous les hommes sur la terre, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, ont été soumis à la puissance de Satan, à un moment donné. Bien sûr, ceux qui croient en ont été extraits. Mais tous les hommes, il n'y a personne qui est exempt de ça. Tout le monde doit la subir. C'est comme l'attraction terrestre. Est-ce que vous connaissez les lois de la gravitation ? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer maintenant ? Dans une conférence. Bon, on sait comment ça marche à peu près. Mais même si on ne sait pas comment ça marche, même si on ne connaît pas les équations de John Newton sur tout ça, ça n'empêche pas qu'on la subit quand même, la gravitation. On est d'accord ? Il suffit de se prendre les pieds dans quelque part et de tomber, et là, on sait ce que c'est. Mais on est constamment, on ne s'en rend pas compte, mais on est constamment soumis à l'attraction terrestre. Ce qui vous permet de ne pas tomber ce matin, c'est la chaise qui supporte votre poids, excusez-moi de le dire comme ça. Hein. Ce qui me permet de tenir, c'est mon corps qui, avec les quelques muscles qu'il y a, essaye de maintenir l'équilibre. Mais je suis obligé de prendre en compte cette donnée-là. Ce qui se passe spirituellement, c'est qu'il y a la puissance de Satan qui agit de la même manière. Et souvent, les gens disent « moi, je ne crois pas en Satan, donc ça ne marche pas ». Mais ça va. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas en quelque chose que ça annule l'action de la chose en question. Le diable agit avec puissance. Quelle est la puissance de Satan ? Ça, c'est une question qu'il faut qu'on réponde. On va le faire avec un autre verset, dans Colossiens, chapitre 1, verset 12. Et vous allez voir que Paul va répéter quasiment la même chose, mais d'une autre manière. En plus, ça commence bien. « Rendez grâce au Père ». Ça, c'est un bon commencement. « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission ou le pardon des péchés. » Amen. Vous voyez le parallèle entre ces deux versets qui disent exactement la même chose avec des mots différents. Quelle est la puissance de Satan dont il est question dans ce verset, c'est les ténèbres. Satan utilise les ténèbres pour piéger les personnes, les ténèbres spirituelles bien sûr. Et on voit, on sait, on pressent et on discerne que notre monde est de plus en plus enténébré, mais on sait qu'il y a un Dieu qui veut nous transporter de la puissance de Satan, de la puissance des ténèbres, jusque dans le royaume du Fils de son amour. Les ténèbres, ce sont ces réalités qui nous empêchent de voir et qui nous font prendre le mal pour bien et le bien pour mal. Il y a un verset qui dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi ? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et dans les ténèbres, ça ne se voit pas. Si tout le monde fait le mal, qu'on fasse le mal, ça passe inaperçu. Par contre, quand tout le monde fait le mal, qu'on fait le bien, là, ça se voit et on n'est pas forcément bien reçu pour autant. Les ténèbres qui nous font croire que personne ne nous voit. Il y a des fois, on agit comme si on pense que personne ne nous voit quand on est seul, mais sachons agir comme Joseph qui a dit, quand il y a eu cette proposition de la femme de Potiphar, vous savez ce qu'il a dit ? Comment ferais-je un aussi grand mal ? Et comment pécherais-je contre Dieu ? Mais comment ? Le premier qui voit le péché, c'est Dieu. Le premier qui est blessé par le péché, avant que ce soit les personnes à qui on fait le mal ou avant nous-mêmes, c'est Dieu. Le ténèbre nous amène à penser que on peut faire les choses du moment que personne ne nous a vus. Hop, c'est bon, c'est réglé. Mais ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur, il est lumière. Et il révèle ce qui est caché. Et il nous amène à nous exposer. Et c'est là où on voit la différence entre celui qui croit et celui qui ne voit pas. Celui qui croit, il n'est pas merveilleux, parfait. Mais il aime mettre son cœur devant la lumière du Seigneur. Pour que la saleté soit exposée, mais pour qu'elle soit lavée aussi. À la fin des temps, il est dit, Paul va prophétiser qu'il y aura ceux qui ont reçu l'amour de la vérité. Et il y aura ceux qui ne veulent pas recevoir cet amour de la vérité. Ils veulent préférer qu'on leur dise rien, ou qu'on leur mente, ou qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre, plutôt que la vérité de la parole de Dieu. C'est ça la puissance des ténèbres. Il y a un verset qui m'a interpellé aussi, c'est quand Jésus va parler, vous savez, de la parabole avec les talents. Et il va dire à la fin, le jugement, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Ça veut dire quelqu'un qui est enténébré va être quelqu'un d'inutile. Quelqu'un qui ne fait pas ce que Dieu demande. Et il va récolter les ténèbres aussi. Ça ne nous donne pas envie, hein ? Seigneur, je ne veux pas être dans un serviteur inutile, un serviteur qui fait le travail pour lui-même, pour ce que ça lui rapporte à lui, mais pas pour le maître. Non, Seigneur, je veux être un serviteur prudent, sage, et qui va rentrer dans la joie de son maître. Heureusement, ce verset nous rappelle qu'il y a un moyen de sortir de l'attraction, de la puissance des ténèbres. C'est la même image qu'une fusée qui doit s'échapper de l'attraction de la Terre. Comment ça fonctionne? Il faut qu'il y ait un gros moteur qui soit plus puissant que la force qui le retient au sol. Et ça permet à la fusée de s'élever. Je ne fais pas de cours scientifiques, hein, mais c'est tout simple. Il faut un moteur qui ait plus de force que la gravitation. Et spirituellement, c'est pareil. Il faut une force qui nous permette de nous élever, alors que la puissance des ténèbres nous pousse vers les choses terrestres, nous pousse vers ces réalités de la terre qui passent et qui n'amènent pas la vie. Le Seigneur, lui, nous donne, nous communique une force pour nous élever, pour aller jusque dans les hauteurs célestes et pour être bénis et regarder de cette hauteur-là, par la grâce de Dieu, tout ce qui se passe. La puissance de Dieu, c'est quoi? Mais c'est marqué. Regardez le pendant de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter où? Vous avez lu le verset? Dans le royaume du Fils de son amour. La puissance de Dieu qui nous extrait de la puissance des ténèbres, c'est l'amour, frères et sœurs. L'amour de Dieu qui a été manifesté dans la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que quand on est délivré de la puissance des ténèbres, il nous place dans le royaume du Fils de son amour. Parce que le Fils de son amour, celui qui a montré l'amour de Dieu en donnant sa vie à la croix et qui est ressuscité, c'est lui qui nous communique la puissance pour vivre notre vie de tous les jours sous le regard de Dieu et avec la force que Dieu nous communique. En lui, nous avons la rédemption. C'est quoi la rédemption? Moi, j'aime bien savoir de quoi je parle. La rédemption, c'est un mot barbare qui veut dire simplement être racheté. Quelqu'un a payé une rançon pour que je sois racheté. Et je lui appartiens maintenant. Il a racheté ma vie, mais c'est pour que je lui appartienne. Mais on sait que autant avant, le maître que l'on avait, qui avec la puissance des ténèbres nous rendait comme un esclave, autant le nouveau maître que nous avons rempli d'amour, de compassion, nous traite pas comme des esclaves, mais nous traite comme ses enfants. C'est pour ça qu'on peut chanter « Abba, Père ». C'est pour ça qu'on peut dire « Seigneur, en toi, je sais qui je suis maintenant ». En lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés, c'est-à-dire simplement le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Ça, ce sont les réalités de ceux qui passent de la puissance de Satan à Dieu. Et ce matin, la puissance de Dieu est là, présente pour nous sortir encore. Parce que, oui, si on a vécu l'expérience une fois, c'est bien, mais c'est bien jour après jour de renouveler notre force et notre intelligence et notre sagesse, de la renouveler par la puissance de l'amour de Dieu pour résister à l'adversaire. Parce que l'adversaire continue d'être là. C'est pas parce que j'ai cru il y a 10 ans ou 15 ans en arrière que le Seigneur a tout réglé. Il prend le temps de régler toutes choses dans ma vie. Mais moi, je dois constamment me placer sous l'amour de Dieu. Constamment me placer, ouvrir mon cœur sous la fontaine de grâce et de bénédiction que le Seigneur me donne. Regardez dans Jean maintenant, chapitre 5, verset 24. Jésus va en parler maintenant d'un autre passage. Enfin, c'est toujours le même, mais d'une façon différente d'être changé dans ce passage. Jean 5, verset 24. Jésus s'adresse aux Juifs qui sont là autour de lui et qui ont du mal à comprendre ce qu'il est en train de leur expliquer. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Celui qui croit et qui écoute ma parole, il est passé de la mort à la vie. Le passage qui change tout, c'est le passage de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu, mais aussi de la mort à la vie. Jésus, quand on écoute ses paroles, quand on entend qu'il parle de cette voix qui va faire ressusciter les gens, tout de suite on pense à Lazare, on pense à la fille de Jaïrus, on pense au fils de la veuve de Naïn, on pense à ces résurrections spectaculaires qui sont venues authentifier le ministère de Jésus. Mais quand on étudie bien ce texte, on s'aperçoit qu'il ne parle pas de la mort extérieure. Il parle de la mort intérieure. C'est pour ça qu'il dit « l'heure vient, mais elle est déjà venue ». C'est-à-dire que les paroles que Jésus est en train de prononcer, elles peuvent communiquer déjà la vie aux morts, ceux qui l'écoutent à ce moment-là. Alors certains l'ont reçu, et d'autres non. Mais par la grâce de Dieu, la parole du Seigneur est toujours vivante aujourd'hui. Et alors que nous ouvrons, des fois on veut des choses spectaculaires, bah c'est sûr, on aimerait bien voir des morts ressuscités. Mais le Seigneur, il veut commencer déjà dans notre cœur. L'heure est venue que la voix du Seigneur retentisse et que ceux qui l'entendent vivent. Cette heure, elle est venue, elle est là, elle est maintenant encore, par la grâce de Dieu. Alors que nous ouvrons la parole du Seigneur ensemble, alors que nous laissons la parole de Dieu résonner et alors que nous la saisissons par la foi, parce qu'on peut l'écouter résonner et puis rien en faire, ou alors on peut l'attraper par la foi et dire « Seigneur, cette parole, elle est pour moi. Ressuscite ce qui est mort en moi. Oh, vous allez encore me dire, mais je suis ressuscité avec Christ, maintenant je suis... » Oui, mais il y a parfois, à cause de la puissance de Satan, à cause de l'environnement du monde, à cause de notre égoïsme aussi, il y a ces moments où on se laisse piéger, où on laisse mourir, peut-être pas tout notre cœur, mais des portions, ou alors on a mis une croix dessus, on dit ça, Dieu peut agir partout, sauf dans cet endroit-là. Là, c'est fini. Et on a raison, c'est fini humainement. Mais avec Dieu, c'est jamais fini. Le Seigneur est capable de faire passer de la mort à la vie encore ce matin, quelque chose dans notre cœur, parce qu'il est le Dieu qui nous aime. Et son moyen, il est très simple, c'est sa parole, c'est sa voix qui résonne. Les brebis du Seigneur, elles entendent sa voix et elles le suivent. Si nous voulons être des brebis du Seigneur, alors nous avons juste à faire ça. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Seigneur, où c'est que tu me conduis? Seigneur, où c'est que je dois aller? Je veux entendre ta voix, Seigneur, et je veux marcher. Ça fait du bien quand on est dans les moments difficiles. David, il a parlé de la vallée de l'ombre de la mort. Ça fait du bien de savoir que le berger, il est là devant. Et si on est dans la vallée de l'ombre de la mort et qu'on est tout seul, on est mal. Ben oui. Mais si, c'est parce qu'on a suivi le Seigneur. Moi, j'ai toujours été interpellé de ce psaume 23. Tu me diriges, tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Et on a l'impression que du coup, on va aller, je ne sais pas moi, dans les vertes montagnes, on va aller dans des endroits merveilleux, et juste après, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Quoi ? Seigneur, c'est sûr que tu me diriges ? Et je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais oui. Mais que je sois dans les vertes prairies, parce qu'il en est question quand même, ou que je sois dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Et sa houlette et son bâton nous rassurent. Le Seigneur est celui qui nous aime et qui veut nous faire passer de la mort à la vie. Combien de fois j'ai dit à des obsèques, j'ai dit, la personne qui est décédée, Elle est morte, oui. Elle est morte de point de vue extérieur, mais intérieurement, elle est plus vivante que beaucoup qui sont dans cette salle. Parce qu'elle est maintenant, elle a la foi. Pour ceux qui ont la foi, on peut le dire, hein. Elle est dans la présence de son Dieu, en train de le célébrer. Alors, bien sûr, c'est toujours un déchirement pour ceux qui restent, etc. On sait la tristesse du deuil, et je ne veux pas revenir sur ça. Mais parfois, on regarde les choses rapidement, et si on les regarde selon la parole de Dieu, selon ce que Jésus dit, l'heure est venue où la voix du Fils de Dieu va être entendue, et des personnes vont vivre, des personnes vont changer, des personnes vont passer de la mort à la vie. Et c'est exactement ce que Dieu veut que nous vivions par sa grâce. Ce matin encore, le Seigneur veut que nous passions de la mort à la vie. Le Seigneur veut mettre de la vie dans nos vies. Et ça, on en a besoin tous les jours. Parce qu'on peut parler, on peut même prêcher la parole de Dieu sans la vie de Dieu. Et Dieu va faire grâce quand même, un petit peu. Mais c'est pas pareil quand il y a la vie du Seigneur qui est déversée. Quand la vie du Seigneur est manifestée. Et c'est pour ça qu'on a tous cet intérêt et ce devoir même de rechercher à ce que la vie du Seigneur coule sur nous. Quand je vais parler à quelqu'un, je peux parler avec toute ma compétence, toute mon intelligence, ou je peux parler avec la vie que le Saint-Esprit fait brûler dans mon cœur. Et ça, il va y avoir une différence. Le Seigneur veut déverser sa vie sur nous. Et ça va changer notre relation. Dans ce texte, Jésus s'adresse aux Juifs. Les Juifs avaient une idée du Père, une idée du Dieu, plutôt comme quelqu'un d'assez lointain, d'assez rigide, de sévère. Et Jésus, lui, quand il en parle, et c'est ça qui les choque un petit peu, c'est qu'il parle comme un père. Mais quand il y a la vie de la foi en nous, on voit Dieu comme notre père. On ne le voit pas comme un Dieu qui est assis sur son trône lointain, qui est prêt à nous juger, prêt à nous condamner. Il y a une relation plus forte, plus intime, plus proche avec notre Seigneur. Quand on regarde à nous-mêmes et qu'on laisse la vie du Seigneur couler, notre faiblesse devient notre force. Notre frustration devient notre accomplissement. La tension qui est en nous devient la paix quand la vie de Dieu coule. Dans 1 Jean, c'est toujours l'apôtre Jean qui parle et qui rapporte cela, mais cette fois-ci c'est lui qui le dit. Là, il racontait ce que Jésus avait dit. 1 Jean 3, 14, il va employer la même expression. On reconnaît le disciple de son maître. 1 Jean 3, 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Alors, un autre moyen de savoir exactement, de savoir si on est passé de la mort à la vie, et regardez ce qu'il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. La vie de Dieu transforme notre relation avec Dieu, transforme notre relation en nous-mêmes, mais transforme aussi notre relation avec notre prochain, et particulièrement nos frères. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Pensez-vous que nous avons besoin encore que le Seigneur déverse sa vie sur nous ce matin? Oui, Seigneur, je veux pour cette année que ta vie coule sur moi. Je veux que ton amour me remplisse. Je veux que ta paix, Seigneur, soit mon partage. Je veux vivre toutes les grâces que tu as préparées pour moi. Et je ne veux pas les garder de manière égoïste, mais je veux les distribuer à ceux qui sont autour de moi. Dans ce monde, le Seigneur nous amène à vivre une vie nouvelle et passionnante. Et dans le monde à venir, c'est la vie éternelle qui nous est promise. Nous sommes passés de la mort à la vie. Alors nous avons le devoir de croire, d'écouter la parole, de croire et de passer de la mort à la vie encore ce matin, de laisser le Seigneur revitaliser notre cœur par sa puissance. Un dernier passage dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11 verset 28, et qui nous montre encore une fois un passage qui change tout. Comment passer de la peur au repos? Venez, c'est Jésus qui parle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans le sondage dont je parlais tout à l'heure, il y est question des sujets d'inquiétude des Français aussi. C'est intéressant de voir dans les thèmes qui doivent faire partie des priorités des pouvoirs publics pour 2022. Voilà ce que les Français ont répondu. 54% parlaient du pouvoir d'achat, 54% de la santé, bizarrement, et 37% de l'insécurité. Et ça, ce sont les gros thèmes qui préoccupent notre pays aujourd'hui. Et on peut comprendre, on n'est pas là pour juger. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire cela et de mettre en rapport ce verset qu'on vient de lire. Jésus a prononcé cette parole, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. » Et on peut dire facilement que le monde, la société dans laquelle nous vivons, nous évoluons, met une pression sur nous, qui peut parfois nous amener à être fatigués et chargés. Ou alors on peut se mettre soi-même une pression en désobéissant de manière délibérée à la parole de Dieu et avoir ce fardeau de culpabilité sur nos épaules. Mais dans tous les cas, peu importe la raison pourquoi on est fatigué et chargé, il y a la parole du Seigneur qui nous dit « Venez à moi ». C'est quoi le repos ? Le repos, c'est pas que le Seigneur va m'installer dans un endroit, une sorte de canapé spirituel, bien confortable, où j'attends qu'il réponde à tous mes besoins sans que je lève le petit doigt, sans que je fasse le moindre effort. Ça, c'est pas le repos. Ça s'appelle la paresse. Mais le vrai repos, c'est juste de venir au Seigneur, de venir dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas de se charger même d'un fardeau de religiosité en disant « il faut que j'accomplisse tout ça ». Non, parce qu'on n'en aura pas la capacité par nous-mêmes. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. C'est le Seigneur qui nous donne la capacité, mais il ne nous la donne pas comme ça en claquant des doigts, c'est en allant dans sa présence, en passant de la mort à la vie, en passant de la puissance de Satan à Dieu, en passant de la peur au repos. Il y a des choses qui nous inquiètent, il y a des choses qui nous angoissent peut-être même pour l'avenir. Or, quand on lit ce que les adolescents, les étudiants pensent de l'avenir, que ce soit au niveau écologique, que ce soit au niveau du travail, que ce soit tous ces domaines-là, mais ce n'est pas reluisant. Mais Jésus dit, lui, toujours, « Venez à moi ». Il ne dit pas « Viens à moi, toi, tout seul ». Non, « Venez ». Parce qu'il sait qu'il y en a beaucoup qui sont concernés, voire tous. On a tous quelque chose qui nous fatigue, qui nous charge, qui nous écrase. Mais on a un Seigneur qui nous dit « Venez à moi, je vais vous donner le repos. Mon joug est doux, mon fardeau léger. » Venir à Jésus, c'est simplement demeurer dans sa présence. Et vous savez que rien ne peut remplacer ce temps personnel que l'on passe devant Dieu. Je vous le dis solennellement ce matin, rien de ce que vous pouvez faire sur la terre, dans vos vies, ne peut remplacer le temps que vous allez passer devant Dieu. Rien. Ah Seigneur, je lis un livre qui parle de toi, c'est bien. Mais si je ne le passe pas en ayant conscience que le Seigneur est là et que je suis en train de vivre quelque chose avec lui, ben, il n'y a pas la vie, encore une fois. Seigneur, je chante toute la journée des cantiques, c'est bien. Mais il faut avoir cette conscience que le Seigneur est là. Et il a recherché. Cherchez l'Éternel et vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur. Le repos, c'est justement de prendre à cœur le joug, la charge, la mission que le Seigneur nous donne et les instructions qui l'accompagnent. La mission, c'est quoi ? Ben c'est facile, vous lisez Matthieu 28, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, etc. Vous en avez plusieurs des versets qui résument la mission, elle est en fait c'est toute la parole. Mais être dans le repos, c'est se charger de ce doux fardeau. Parce que quand on accomplit, quand on agit selon la volonté de Dieu, ben il n'y a pas de plus grand repos sur terre. Parfois on croit que le repos c'est de rien faire, c'est d'attendre que les choses se passent. Non, le repos c'est d'agir dans la parfaite volonté de notre Seigneur. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'entendre la voix du Seigneur qui nous dirige. C'est pour ça qu'on a besoin que sa vie coule. C'est pour ça qu'on a besoin qu'il nous extrait la puissance du diable qui lui veut nous empêcher d'avancer. Le vrai repos c'est d'avancer sur le chemin du Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse quand je vois un Saul de Tarse qui était là en train de s'agiter dans tous les sens pour faire du mal, pensant qu'il servait Dieu, Et Dieu l'a arrêté, oui, et pendant 3 jours, oui, il est resté dans un endroit sans bouger. Mais dès qu'il a ouvert les yeux, dès qu'il est passé lui-même des ténèbres à la lumière, Dieu lui a dit, maintenant je t'envoie pour que tu fasses passer les autres des ténèbres à la lumière. Et ça, c'est le repos. Mais laissez-moi vous dire que Paul, un Paul dans le repos, c'est pas un Paul qui s'assoit sur une chaise. C'est un Paul qui parcourt l'Asie, qui parcourt l'Italie, qui parcourt toutes sortes de pays pour annoncer la bonne nouvelle, faire face à des défis, faire face à la persécution, mais son cœur est dans le repos. Il est inquiété, il pleure à cause des églises qu'il a ouvertes, de voir les faux docteurs qui se lèvent, etc. Mais son cœur est dans le repos. Ça, c'est le vrai repos, parce qu'il a endossé la charge. Il a entendu la voix du Seigneur, l'appel du Seigneur, et il a compris que c'était sa place. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons nous mettre à la place où le Seigneur a prévu que nous soyons? Mais nous serons dans le repos si nous faisons ça, si nous entendons sa voix, si nous recevons ses instructions. On va fermer les yeux quelques instants. Mais voilà le passage qui change tout, ce passage des ténèbres à la lumière, ce passage de la puissance de Satan à Dieu, ce passage de la peur, de l'agitation, de l'inquiétude à la paix, au repos. Ce matin, s'il y a quelque chose qui vous pèse, ne laissez pas passer l'occasion de venir devant le Seigneur. Ne laissez pas l'opportunité passer. Mais laissez, donner à Dieu l'opportunité de justement vous faire passer de la peur au repos. Dans cette année nouvelle, nous voulons que le Seigneur donne de la voix dans cette Église. Nous voulons que le Seigneur donne de la voix à chacun d'entre nous pour nous faire marcher dans ses plans, dans sa volonté. Oui, nous croyons que le meilleur est devant, parce que c'est le Seigneur Jésus qui est devant. C'est lui qui conduit, c'est lui notre berger, c'est lui notre maître. Et parce qu'il est notre maître, il a prévu des grâces excellentes, des dons parfaits. Nous voulons avoir les yeux fixés sur lui. Nous ne voulons pas être dans la crainte, l'inquiétude ou même l'agitation. Mais nous voulons être dans la paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur éternel, ce matin, tu connais comment chacun d'entre nous entendons ta parole. Tu as dit que celui qui croit et qui reçoit ta parole, il passe de la mort à la vie, Seigneur. Alors ce matin, par ton Saint-Esprit, fais-nous passer de la mort à la vie encore. Fais, Seigneur, ressusciter en nous par certaines promesses, certaines pensées qui sont là et qu'on avait mis une croix dessus. Seigneur, donne-nous une espérance nouvelle. Ne laisse pas les choses de cette terre nous apeurer, nous effrayer. Mais donne-nous cette foi qui surmonte les difficultés. Oh, merci Seigneur, parce que quand nous mettons notre foi en toi, tu nous fais passer par ce passage qui change tout dans nos vies. Tu nous donnes une réflexion nouvelle, tu nous donnes un discernement nouveau, tu nous permets de remporter la victoire sur des choses qui nous asservissent. Seigneur, merci pour ta puissance qui est au-delà de la puissance de l'adversaire. Merci pour ton amour qui dépasse tout ce qui peut se faire contre ton peuple. Ton amour est puissant et parce que tu nous as aimés, Seigneur, qui peut agir contre ceux que tu as aimés? Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Prends soin ce matin de celui qui est dans un combat pour s'en sortir de cette puissance de l'adversaire. Seigneur éternel, prends soin de lui. Montre-lui que c'est ton amour qui va le sauver, Seigneur. Montre-lui que c'est ta grâce qui peut l'extirper de là où il est. Oh Seigneur, que tu lui donnes les ailes de la foi pour sortir de la pression de l'adversaire, Seigneur, alors qu'il ouvre son cœur à ta présence. Merci pour ton action dans les vies, dans nos vies, Seigneur. Oh, nous te bénissons et nous te louons. Amen.